bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Marina Rollman, Daniel Morin,
Jean-Marina,
Albert Algou,
bonjour.
Tanguy Bassureau sera tout à l'heure et nos invités sont là, Marina Hans et Mathieu Debuy.
Bravo.
Comment allez-vous déjà? Première question, Marina, tout va bien?
Oui, très bien.
Je vous sens emprunté avec le casque. Il y a un truc qui vous plaît pas?
Oui,
à la radio?
Non, casque, pas de casque.
Pas de casque,
obligé,
vous
pas
embêtez
obligé.
Pas.
Voilà, pas de casque.
Vous êtes bien coiffé comme ça, vous embêtez pas, mettez pas un casque. Mathieu Demy, bienvenue et déjà bravo pour cette série. Série dingue.
Merci.
Qui s'appelle, qui porte d'ailleurs ce nom de Mytho, qui est créé par Anne Berest et Fabrice Gobert, excellent réalisateur, c'est lui qui avait réalisé les Revenants et qui imprime sa patte aussi, pas que dans sa folie d'écriture, mais dans sa réalisation. C'est extrêmement moderne. Ça passe sur Arte en deux soirs. Il faut préciser, il y a trois épisodes par soir, les 10 et 17 octobre prochains. Il y a déjà le DVD qui va ou qui est publié ou qui va sortir, et puis tout est visible sur le site,
la plateforme Arte,
la plateforme, exactement. Et puis je peux vous dire que vous arrivez là
en terrain conquis
parce que tout le monde a cru.
Merci.
Jusqu'au bout.
Merci.
Et jusqu'au bout.
Vous pouvez partir, on dira rien.
Non, mais vraiment,
bonne journée.
Non, mais l'histoire, l'incarnation, l'image, la façon dont c'est filmé, la bande son, elle est géniale, la bande son, elle est parfaite. En plus, c'est que des jeunes groupes français, il y a beaucoup de jeunes groupes français.
Non, tous les comédiens sont vraiment formidables et ça c'est rare.
Ouais, tu m'as dit sauf un. Les bronches, je sais pas de qui tu parles.
Ouais, mais de lui, ouais, exactement.
Il y a ce point de départ, tout est dans le titre, ce point de départ d'une maman que vous incarnez, Marina Hans, qui est gentille, mais tellement gentille, tellement
patiente,
mais tellement gentille, mais elle est
trop.
Non, ça va toi.
Bah si, bah, la preuve.
Oh, non. Elle est gentille donc, c'est pas ses enfants lui parlent, mais comme de la daube, et son mari la trompe avec la pharmacienne, c'est n'importe quoi, mais elle est gentille.
Ouais.
Sauf qu'à un moment arrive dans sa vie une petite inquiétude. J'ai peur de... Petite inquiétude,
une grosse sœur à la poitrine.
Elle sent une boule là bizarre, elle va faire une mammographie, elle va faire un dépistage du cancer. On lui dit non, rien de grave.
Oui.
Et sauf que là, elle va partir dans le mensonge en disant à son mari j'ai un cancer du sein.
Oui, mais surtout en fait, au moment du rendez-vous, etc., elle lui en parle, elle lui dit tu sais, j'ai mon rendez-vous, c'est important pour moi, etc. Et il ne répond rien. Il a oublié que c'était le jour du rendez-vous.
Elle a rien à foutre.
Bah oui, c'est un salaud.
Puisqu'elle est gentille et qu'il est un salaud, lui.
Mathieu,
cloisonné.
Mathieu, votre personnage est un salaud domestique.
Voilà, je suis pas d'accord.
Il a trop
voulu dire ça. Ça a dérivé doucement.
Défendez-vous.
Alors dites-nous, votre personnage, hein, c'est pas vous.
Oui, bah, bien sûr.
Non, parce que je vous sens touché quand on dit que c'est un salaud.
Oui, parce que je crois qu'il faut jamais juger ces personnages. Enfin, le personnage a toujours raison. Et moi, j'ai interprété Patrick en partant de l'idée qu'il avait raison et qu'il n'était pas du tout un salaud,
Non mais moi, je veux dire, moi je suis pas personnage, moi j'en garde.
Ouais,
et je vois
aussi
juste un homme qui trompe sa femme, qui ne l'aide pas, qui reçoit même sa maîtresse à la maison pour un groupe de photographie. Enfin, c'est quand même, pardon, c'est l'outrage.
Le mec fait
c'est l'outrage ultime. Il fait rentrer sa maîtresse dans le domicile conjugal. Bon, après ça passons.
Pas
et puis surtout, elle a un rendez-vous médical et hyper capital.
Bah oui.
Et il est même pas foutu de l'appeler avant, après.
Non mais il oublie.
Et le soir, si elle en parle pas.
Il a des soucis, vous voyez. Enfin... Non, mais je dis souvent que.
Mathieu, cloisonnez.
Non, Patrick, il a toutes les qualités d'un père, parce que je trouve qu'il donne quand même un bon exemple à ses enfants de poursuivre son rêve, d'être photographe, etc. Et il a un peu tous les défauts d'un homme. Donc c'est un personnage
ambigu. Même Marina n'assume pas ce que vous dites du personnage.
C'est elle qui fait bouillir la marmite,
mais
en fait.
Oui, non, mais
le père est là aussi pour montrer l'exemple. Quoi. Quelqu'un Mathieu, qui, Mathieu, qui ne renonce assure, pas à ses rêves, c'est quand même beau.
Oui,
beau.
Non, faites gaffe, vous êtes en train de perdre beaucoup de points au niveau, au niveau social.
Là. Je l'assume, je perçois avec
joie. Ouais. Allez, on va en parler dans quelques instants.
C'est rafraîchissant d'avoir ce genre de discours. Je vous félicite, hein, je vous encourage à continuer dans cette voie. Le politiquement correct, c'est des salauds, c'est des gentils, tu parles. Non, merci.
On va continuer d'en parler une fois que... On va continuer à en parler. D'abord, okay. L'interro pour savoir si vous avez bien bossé autour de cette table sur Marina Hans et Mathieu Demi. Souvent, Marina Hans assistait aux répétitions de sa maman, Lumia Michael, au théâtre. Mais pourquoi un jour a-t-il fallu l'évacuer rapidement?
Parce qu'elle répondait. Elle intervenait, elle parlait, elle faisait les répliques en fait, elle connaissait le texte.
Non.
Ou elle intervenait, elle parlait,
non.
Elle voulait jouer,
non.
Elle pleurait, elle était triste de ce qui arrivait à sa mère sur scène.
Exactement.
Ah ouais.
Exactement. Vous êtes mise à hurler.
C'était pas une répétition.
Ah, pardon,
c'était une représentation avec la salle pleine. Ouais.
Et vous êtes mise à hurler parce que votre maman a reçu une gifle.
Ouais. Je mélangeais un peu tout, je crois.
Mais non, mais on peut imaginer. Facile, ouais. Vous avez quel âge à ce moment-là?
19, 20 ans.
Ouais. Ouais. Il a fallu m'évacuer.
Ouais, je comprends.
J'ai voulu monter sur scène, mettre un pain au mec. Bon. Mais j'ai.
Non, mais pour une enfant, voir sa mère recevoir une gifle de. Déjà, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, mais ça doit être un choc dingue. On ne peut pas imaginer. Non, mais c'est pour de faux, c'est pour la comédie, c'est pour jouer, c'est pour rire.
Non, mais il y avait pas mal de confusion quand elle embrassait des hommes et tout ça différents. D'un film à l'autre, je trouve ça
simple.
Très bizarre.
Ouais, c'est sûr.
Il y avait pas mal de choses. Non, c'est vrai, il y a une confusion qui se fait, mais elle en parle assez bien d'ailleurs. Et moi, juste un petit aparté sur Simone Signoret, dont j'ai écouté une interview extraordinaire qui disait qu'elle détestait quand ses proches, sa famille et ses proches venaient la voir jouer.
Au théâtre.
Et elle disait, mais c'est mon endroit, c'est mon intimité en fait d'actrice, d'artiste. Je veux pouvoir exprimer des choses monstrueuses, des choses qui me regardent et je ne veux pas qu'il y ait de confusion et je ne veux pas que mes proches viennent.
Sylvie Testu, que nous recevrons demain et que j'ai eu la chance de voir au théâtre hier soir, m'a dit exactement la même chose en disant que quand ses enfants étaient dans la salle, elle ne jouait plus du tout de la même manière parce qu'elle avait le
Ça, il faut cloisonner.
Voilà, il faut cloisonner. Mathieu.
C'est pour ça qu'elle était mauvaise hier.
Très bien. Dans quelles conditions et dans quel lieu Mathieu Demi est-il né?
Un aéroport.
Non.
Dans une piscine.
Oui, mais une piscine avec quoi dedans?
De l'eau.
Non.
Justement, pas d'eau.
Du vin, du lait.
Non.
De l'eau minérale.
Une piscine de quoi?
Champagne.
Non.
Une piscine à bulles.
Tu imagines Agnès Varda dans une piscine de champagne en train d'accoucher.
Une piscine d'eau de mer.
Une piscine d'eau de mer. Sera malentendu.
Une piscine vide.
Non. Bah non.
Piscine municipale. Municipale.
Un truc de cinéma avec un tournage.
Non, c'est le liquide. C'est
pas une piscine spéciale.
Liquide amniotique.
Non.
De l'essence.
Non.
De l'eau salée, d'eau de mer, de pas
du lubrifiant roi.
Quoi pour une piscine de l'eau de coco.
Ils trouveront jamais.
Du lait d'anès.
Non.
Ah oui. Un pot.
De l'hydromel.
Non.
Mais on se rapproche
mais
un peu de...
C'est sucré, ouais.
Du Ricard.
Non, sucré, j'ai dit
du sirop d'anis.
Ah oui, Romain, ouais. Non.
Attends, une piscine, pardon.
Un jus de fruits.
Oui.
Du jus d'orange.
Exactement.
Attends, pardon, c'est dingue d'imaginer du champagne. En revanche, c'est pas dingue d'imaginer du jus de fruits, quoi.
Mais pas du tout.
C'est naturel.
C'est
naturel.
C'est une piscine de
jus champagne, c'est pas tellement chimique non plus.
Vous êtes né dans une piscine de jus d'orange tiède.
Gros mytho. C'est un mytho total.
C'est faux.
C'est faux. Ouais.
C'est dans une interview dans Libé.
Ouais. Voilà, fake news.
Ok, génial.
Mais c'est un mytho que vous perpétuez ou...
Non, je sais plus, c'est peut-être moi qui ai dit la connerie au départ. Mais
Il y avait des guillemets en tout cas. Il y a des guillemets. Je suis né dans une piscine de jus d'orange tiède parce que ma maman était très expérimentale.
Ah, ok.
Et après, vous avez dit que 3 mois après, vous étiez un bébé dauphin.
Ouais. Oui.
Ça, c'est vrai.
Et aujourd'hui, une licorne.
Voilà, c'est trans. Ça. En fait, vous êtes foutu la gueule de Libération ce jour-là, quoi.
Et de nous.
Non, mais c'est vrai qu'elle était un peu expérimentale. Et que je suis né dans une clinique un peu expérimentale avec des bougies et du Mozart et tout ça, et que c'était un peu...
Oui, jusque-là, rien de choquant.
Voilà.
Plus, quoi.
Non. Mais c'était pas du jus d'orange.
Oui. Aucune orange n'a été blessée pour votre...
pendant l'accouchement.
Marina Hans a accepté un rôle dans la série Tabou sur Canal+, alors que son rôle... avait quelque chose de particulier à ce moment-là. Au moment où elle a accepté...
Elle était enceinte, mais elle ne l'avait pas encore dit ou un...
Il n'était pas écrit.
Exactement. Vous avez accepté le rôle et le rôle n'existait pas. Vous êtes prête à tout, en fait.
Oui. pour Tom Hardy, oui.
C'est vrai?
Oui.
Mais alors, sur quelle base on accepte?
Celle-là.
Tom Hardy.
Tom Hardy. C'est un acteur
C'est acteur contemporain, c'est pas Laurel et Hardy. Hein,
Tom Hardy. Voilà, c'était une série qu'il coproduisait, qu'il écrivait avec son père et tout ça. Et je l'ai rencontré ainsi que le producteur. Ils m'ont dit, on est désolé, on peut pas vous donner grand-chose parce qu'en fait, c'est pas écrit encore. Voilà, votre rôle n'est pas écrit parce que j'arrivais au bout d'un certain temps dans la série. Et c'était pour le rencontrer, travailler avec lui.
Et alors pardon, comment on vous caste si on ne sait même pas si vous correspondez au personnage?
Je sais pas.
De leur point de vue, de l'autre côté.
Mais il y a de tout hein, dans ce métier, vous savez.
Ma petite dame.
Attendez, ça fait un moment que je travaille, les castings, je peux vous dire, c'est quelque chose.
On vous a dit le rôle n'existe pas, mais vous correspondez tout à fait.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, super. C'est génial. Le problème.
Ouais. Je sais pas comment le prendre, ouais.
Bien, en tout cas.
Il savait que c'était un agent double, une espionne.
Et ça s'est bien passé.
D'origine française, et voilà.
Est-ce que la réalité a été au niveau du rêve?
Au-delà. Non, ça m'a vraiment fait du bien d'abord d'aller travailler à l'étranger et puis de voir comment ils travaillaient. En Angleterre, c'est pas les États-Unis, machin, c'est ni même la France. Il y a une économie de moyens qui est assez intéressante. Les plateaux de tournage, c'est roots, quoi, ça travaille dur. Et Tom Hardy, c'est une star mondiale. Et on était dans des loges communes. Il amenait son chien, comme Mathieu Demy, d'ailleurs. Ouais. Et il réécrivait.
Très peu de choses me séparent de
Tom Hardy. Et je veux dire, c'était une émulation. voilà, ça m'a fait vachement de bien de voir quelqu'un comme ça travailler de cette manière-là, quoi. Ouais.
Quelle même récompense ont reçu les parents de Mathieu Demy?
Oscar.
Exactement.
Ouais, la palme.
Des palmes.
Bah oui, la palme pour
Jacques
les demoiselles.
Piscine ou quoi?
Jacques Demy. Bonne vanne de piscine. Moi, elles sont pas faciles à caser, les vannes.
Merci Nagui. Je crois que c'est ma première.
Une palme d'or à Cannes pour Agnès Varda, pour Jacques Demy. C'est quelque chose de rarissime. Je sais même pas si ça existe. Vous devez être le seul au monde à avoir des parents
palmés.
Double palmé.
À part l'homme de l'Atlantide.
Coin, j'ai envie de dire. Oui, c'est, j'imagine que c'est rare. Ouais, c'est peut-être.
C'est fou même. Ouais.
Est-ce que c'est pesant? D'abord, est-ce que c'est pesant qu'on vous en parle? Ça vous saoule ou finalement vous vous habituez et vous aimez qu'on vous parle de vos parents?
Non, mais ça me.
Comment vous gérez ça?
J'ai grandi avec leurs films et puis j'ai beaucoup d'admiration pour leur parcours, pour les films qu'ils ont fait. Donc j'ai pas de problème particulier. C'est même assez émouvant de voir que beaucoup de ces films ont été faits dans les années 60, même à des moments, à une période où moi j'étais pas né, et qu'ils ont encore
un écho aujourd'hui,
y compris chez des plus jeunes, etc. Donc c'est tout à fait cool.
Quand vous avez plus travaillé avec Agnès Varda qu'avec votre papa,
ouais.
Ce travail-là se passait comment? C'est-à-dire, c'est que ça faisait quoi?
Bah non, mais c'est compliqué parce que c'est déjà compliqué, les rapports sur un film sont compliqués, c'est des rapports qui sont très intenses sur une durée très courte. Quand on travaille avec des membres de sa famille, c'est encore plus explosif, c'est encore plus complexe, quoi. Mais c'était hyper intéressant parce que Agnès, elle travaillait d'une manière extraordinaire, très instinctive et très libre, et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup apporté.
Et vous l'avez dirigé?
Non, je l'ai pas vraiment dirigé. C'est elle qui m'a dirigé quand j'étais enfant dans ses films. Je l'ai un peu assisté parfois. Voilà. Et puis on parlait beaucoup aussi. On parlait beaucoup de cinéma. Moi, j'aimais beaucoup parler de cinéma avec elle. Elle avait toujours un point de vue assez radical, quoi.
Que fait Marina systématiquement tous les 2 ans? C'est une règle.
Un jeune.
Oh, il faut le faire plus souvent hein, que tous les 2 ans.
Elle prend une douche.
Alors ça c'est marrant.
Une retraite.
Elle voyage,
c'est une bonne
elle
idée,
part
mais
loin.
C'est pas ça.
Elle part loin.
Alors c'est pas une retraite,
elle
mais
fait quelque chose d'humanitaire, caritatif.
Ouais,
non.
Une marche.
Tous les 2 ans. Non.
Saint-Jacques.
Alors il y a une notion
de thermale.
Il y a une notion de déplacement.
Elle migre, telle une oie.
Elle migre. Alors il y a une notion de pied. Il y a une notion de migration. Il y a une notion de transhumance. Tous les 2 ans.
Elle retourne là où elle vient.
Exactement, Daniel Morin.
Quoi?
Vous déménagez tous les 2 ans.
Tous les 2 ans, c'est pénible.
Mais c'est faux, c'est fake news aussi.
Vous savez, quand vous changez d'appartement, ça s'appelle déménager.
Mais déjà, tous les deux ans, je voyais pas ce que je sais pas donc, du tout quelqu'un qui planifie rien.
Dans une interview que vous avez donnée il y a un an, donc il y a pas si longtemps.
À mode des travaux.
Vous dites, je déménage tous les deux
Marina
ans.
Foïs.
Je vis actuellement dans le 16e. J'étais avant à Saint-Paul ou au 14e. Enfin, je sais pas. Enfin, vous avez la bougeotte apparemment dans les appartements. Si c'est pas le cas, on oublie.
Hein? Oui.
Vous n'avez pas l'impression de ça?
Peut-être. Je suis pas casanière du tout, en fait, je crois. C'est ça que je voulais dire. Je passe d'un endroit à un autre, c'est vrai, assez facilement. J'ai toujours, peut-être un jour j'aurai même un logement itinérant.
Ah, en roulotte, pas mal.
Ouais.
Pas mal. Qu'est-ce que Mathieu Demy aime photographier comme endroit? On rejoint un tout
la
petit
ville,
peu peut-être le personnage.
Les caves.
Ouais, non, je vais prendre la ville, ouais. Plus précisément dans les villes, les rues.
Ah ouais.
Ça sent faute ce matin.
Ouais, si vous voulez, ouais.
Vous avez vu, c'est bien de venir ici, on en apprend sur soi.
C'est cool. J'aime bien aussi photographier le jus d'orange. Enfin, j'ai comme ça des hobbies. Non, j'aime bien photographier. J'aime bien la photo en général, en fait. Non, mais c'est vrai que
faites des photos de rue et des portraits sur votre Insta.
C'est vrai.
Il y a un moment où vous le publiez, donc on le voit. Arrêtez.
Non, tout à fait.
Arrêtez de semer le trouble.
J'ai ce point commun avec Patrick, mon personnage qui est photographe, donc d'aimer la photo. Sauf que Patrick photographie des morts, ce qui est assez particulier.
Oui. C'est vrai.
Et c'est pour ça, moi, je photographie plutôt des sapins de Noël ou des trucs comme ça, quoi. Enfin...
Alors, votre personnage, on en parle ou pas?
Avec plaisir.
Patrick le photographe.
Comment Fabrice Gobert vous a expliqué votre personnage? Il vous a dit quoi? C'est un mec sympa?
Non, alors, en fait... non, mais la question se pose pas vraiment comme ça. On est parti, tout part d'un texte qui est... qui sont les scénarios de Anne Berest et qui sont des textes très très fins, très à la fois drôles et profonds et qui sont des textes très très nuancés. Et puis c'est vrai que quand une série n'existe pas encore, on ne peut que se baser là-dessus. Et puis après, c'est un travail avec Fabrice, on a travaillé sur des choses très concrètes, en fait, comment les gens s'habillent, comment ils se meuvent, comment quels sont leurs accessoires, leurs hobbies, leurs choses comme ça. Et c'est un travail qui se fait progressivement, mais qui tout partait d'un texte qui était merveilleusement écrit. Ouais.
Et il vous l'a présenté comme un salaud, comme un bon père.
Non, mais encore une fois, moi je pense pas que ça soit un salaud. Il a un truc un peu archétypal. C'est vrai que c'est le mari volage. Bon, voilà. Mais une des qualités de la série, c'est, je crois, de dépasser un peu les archétypes de départ, parce qu'il y a une mère de famille débordée, il y a des ados en crise, il y a un mari volage. Donc c'est des gens auxquels on peut tout de suite s'identifier, on comprend qui ils sont. Mais j'ai l'impression qu'une des qualités de cette série, c'est que les personnages se développent avec pas mal de surprises et de finesse, et qu'on n'est pas dans le cliché.
On est dans une ambiance, on va dire, banlieue, bourgeoise,
banale.
On ne sait pas dans quel pays on est.
Y a un petit
ce lotissement est banal.
Il y a un petit côté Desperate Housewives, quoi. On a l'impression d'être dans Wister Lane. C'est-à-dire, les voisins se connaissent, il y a un meurtre à côté, ou un assassinat, on ne sait pas trop, ça commence à dire pas.
Un mec qui creuse.
Une scène de crime. C'est ça. Il y a un autre qui creuse dans un coin, et puis les voisins s'observent sans forcément se connaître les uns les autres. Peut-être une espèce d'admiration sur une famille équilibrée, ils ont l'air heureux là dans leur coin, tous les quatre.
La famille témoin, en fait.
C'est ça, exactement.
La famille Martin.
C'est ça.
Cachou dedans, il y a Cachou. Enfin, j'ai reconnu Cachou, c'était un truc d'enfance. Quoi.
Et puis il y a votre famille qui est un peu dans une espèce de joyeux bordel parce que personne veut se réveiller, personne veut y aller, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui fait quoi. Enfin voilà, c'est un peu la famille fouillie au début. Et puis arrive donc ce mensonge simplement d'annoncer ou de voir la différence de regard que l'on va porter sur cette femme qui est gentille, qui est naïve peut-être, ou qui laisse la vie couler comme ça d'une manière extrêmement simple, c'est simplement de dire je suis malade ou je suis peut-être malade, rien que cette phrase-là va changer le regard de tout le monde. Alors on ne sait pas dans un premier temps si ce mari qui est excellent, qui est un père de famille formidable,
formidable.
Dans ton rêve.
On ne sait pas si d'un coup, lorsqu'il apporte le petit déjeuner au lit, c'est par amour pour elle ou d'un coup il se dit zut, si elle meurt, qui va s'occuper de la maison, qui va gérer les enfants? Qu'est-ce qui va se passer?
C'est déjà sa première réaction, c'est-à-dire que quand elle lui annonce que potentiellement c'est grave et qu'elle est malade, c'est lui qui demande à s'allonger, il a besoin de 5 minutes pour réaliser.
Ça va, on est fragile aussi, merde.
Ouais, c'est ça. Et en fait, et c'est elle qui veille à ce qu'il aille bien. Et
en fait,
là,
on s'en sortira jamais avec ce type, c'est pas une fiction. Mathieu Demy, c'est pas une fiction, c'est un documentaire pour lui, ce film. C'est la télé-réalité, en fait. Il a pas joué. C'est tout
Peut-être qu'il lui apportait le petit déjeuner au lit il y a 20 ans aussi. C'est une série sur la famille.
C'est
sur,
peut-être un renouveau. Oui,
sur
absolument.
L'évolution de la famille, sur le délitement de la famille.
Non, mais il est auto-centré quand même.
Non, mais le fait qu'il aille mal, c'est peut-être parce qu'il est très très touché par la maladie de sa femme.
Il est auto-centré, mais à un moment, il y a une rédemption.
Heureusement qu'on a dit à Mathieu Demy au début. On a beaucoup aimé votre émission. Vous allez bien vivre l'émission. Et là, il se prend tout dans la tête.
Ok, je vais créer un groupe Facebook. Patrick n'est pas un salaud. Je vous invite tous et toutes à rejoindre ce groupe parce que c'est je peux pas vous laisser dire ça.
Et au début, en tout cas, vous êtes vraiment un salaud, mais après ça va mieux.
Il y a une rédemption.
On peut dire ça. Ne dévoilez pas tout.
Mais non, mais j'essaie de le réconforter.
Il y a deux. Mais il peut pas partir. Son chien s'est endormi. Donc de toute façon, il va laisser dormir son chien. Jusqu'où aller pour être aimé aussi? On pourrait se poser la question, Marina.
Oui, complètement. Ouais. C'est le moteur qui m'a intéressée de jeu pour le personnage, pour avoir une forme de reconnaissance, pour exister, aux yeux des autres, quoi. En l'occurrence, c'est les gens qu'elle aime en plus. Enfin, jusqu'où on peut aller, ouais.
Exister, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas. Que c'est une espèce d'hologramme dans la vie de tout le monde. Elle passe, on la voit pas.
Non.
Et dès l'instant où elle dit je suis malade, là, elle prend toute la mesure, c'est-à-dire que d'un coup, il y a des déclarations d'amour auxquelles on s'attendait absolument pas, puisqu'il y a des ados qui sont extrêmement violents.
Au début,
ils sont d'une violence, ces ados, ça fait tellement peur, mais c'est sûrement proche d'une certaine réalité. Et là, il y a des je t'aime qui sortent auxquels on s'attendait pas.
Alors, elle devient accro, en fait, à cette chose qu'elle génère avec le mensonge, à cette tendresse soudaine, le fait que même Patrick revive un peu, soit comme ça, tout fringant, content, heureux. En fait, elle le voit heureux à nouveau d'avoir un but dans sa vie. En fait, surtout, ça donne un sens à leur vie, à quelque chose qui se centre. Parce que ce sont des personnages qui sont en quête d'identité, en fait. Ils savent pas très bien comment se positionner dans la société. Et on a ça à travers les adolescents, etc. Même la petite fille va trouver comme ça une raison d'être. Voilà, ça remet les choses à un endroit de vie, de mort, de existentiel, simple.
Et ça entraîne tout le monde dans le mensonge.
Et ça entraîne tout le monde.
La petite fille en question espionne ou entend en tout cas une discussion entre ses parents, et puis internet doctissimo.com fait que elle va aller taper ce qui se passe et
se renseigner,
s'inquiéter.
Et dans la suite, elle va défendre la cause de sa mère, etc. Enfin.
Et alors ce mari parfait qui trompe sa femme et qui s'occupe peu de la maison revient donc à la source de l'amour, c'est-à-dire que il veut lui aussi faire le tri dans sa vie.
Ouais, bien sûr, il y a une rédemption. En fait, dans cette famille, tout le monde a des petits mensonges ou des plus ou moins petits mensonges par omission ou pas par omission, ou même des personnages qui se mentent un peu aussi à eux-mêmes. Et je crois que, c'est Marina l'a très justement dit, cette espèce d'alerte remet du sens et remet tout le monde dans une réalité qui est qu'il faut qu'on prenne soin les uns des autres, sinon la vie n'a pas de sens, quoi.
Alors justement, est-ce que c'est aussi un film sur la maladie ou le regard que l'on a sur la maladie ou les malades, parce que le mari va se servir. Oublions que ce soit un mensonge. Imaginons qu'il n'y ait pas du tout de mensonge. Simplement, sa femme est malade. Lui aussi va se servir de cette corde sensible auprès de son frère, auprès de l'école, auprès dès l'instant où il a un problème, où il a une excuse à donner, c'est ma femme est malade. Et d'un coup, il voit bien qu'il y a de l'empathie qui naît dès l'instant où tout le monde est ému par quelqu'un de malade et, on ne sait pas quoi répondre quand dans une engueulade si on s'embrouille avec quelqu'un et puis d'un coup
oui mais j'ai un cancer, ah bah c'est sûr que ça calme,
tu gagnes à la fin, ça,
c'est ça,
c'est le point.
Non mais ça il le découvre, il le découvre aussi, et ça c'est ce qui gêne évidemment son épouse qui elle sait que c'est un mensonge, mais lui il y va il y va volontiers.
Oui mais pour la bonne cause, pour sauver sa fille qui est en échec scolaire, pour il y a quand même
pour finir les travaux du jacuzzi dans le jardin,
pour finir le jacuzzi à temps et tout ça, il y a quand même l'idée de préserver, de sauvegarder la famille, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas tant une série sur la maladie que sur la famille, et chacun en fait, même je pense Elvira, son mensonge au départ c'est presque un mensonge pieux, c'est quelque chose pour que sa famille n'explose pas. Et la série pose un peu la question ultime qui est, est-ce que dans une certaine mesure le mensonge n'est-il pas nécessaire à la préservation d'une famille sur le long terme, quoi.
Sauf que la série s'appelle Mytho et pas mensonge. Parce
oui,
que là,
bien sûr.
La mythomanie, on va encore dans un...
Oui. Et la mythologie aussi. Enfin, ça part dans des sphères, en effet, vachement plus... Mais ça explore plein de cercles du mensonge. Pas que le mensonge fondateur de Elvira, mais toute forme de...
Et le rapport à la vérité aussi, parce que c'est vraiment dans l'écriture, il y a tout le temps, il y a plein de scènes où ils sont confrontés à « mais dis la vérité, mais il faut absolument dire la vérité, arrête de mentir ». Enfin, c'est comment on utilise ces mots en permanence pour juger l'autre ou lui interdire de se comporter de telle ou telle manière, et, alors que soi-même, on n'est pas forcément très...
Ouais, et au travail aussi, puisqu'elle travaille dans une compagnie d'assurance.
Ouais.
Et ça pose tous les problèmes de l'honnêteté de certaines compagnies.
Exactement.
C'est formidable, ça aussi.
Ouais.
Ça s'appelle Mytho, c'est sur Arte, les 10 et 17 octobre prochains, 3 épisodes par soirée. Vous pouvez tout voir sur la plateforme d'Arte. Sinon, il y a le DVD, et c'est extrêmement bien réalisé par Fabrice Gobert. Voici François qui est des révélations.
Salut les amis, salut Nagui, et coucou Marina et Mathieu. Et coucou Osmo, le petit chien de Mathieu, très mignon, qui roupille sous la table. Quand JNB, notre rédac-chef insomniaque aux yeux cernés à la laine du Coulommier, m'a appelé aux aurores en me disant « François, viens ce matin, tu vas adorer, toi dont la mission est de démasquer les menteurs dans cette émission. On va parler de mytho. » Comme il ne m'a pas précisé de qui il s'agissait dans la bande originale, à un moment je me suis même demandé en tremblant s'il ne s'agissait pas de moi, puisque certains ici mettent en doute ma filiation quand je prétends être le fils spirituel de tous les François chanteurs. Oncle François, François Valéry, Frédéric François, Jean-Pierre François, François Degel, François Feldman, François Zardy. C'est dire si j'étais soulagé en comprenant qu'il s'agissait de la nouvelle série d'Arte dont on m'a parlé, car je préfère laisser planer le mystère autour de moi. J'ai été soulagé donc, mais en regardant Mytho, j'ai aussi été ému, dérangé et intrigué par Elvira, ton personnage Marina, dont l'ennui, fruit de la mort d'incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Ça c'est pas de moi, c'est de Charles Baudelaire. Eh ouais, on n'est pas chez celle que Nagui surnomme fielleusement l'arnaque de France Inter, à savoir Laura Adler. Laure qui, si on en croit les rumeurs distillées par Leïla, prendrait enfin sa retraite en juin prochain. Bref, mais bon, je vais quand même parler plus simplement.
Genre tout le monde, ils s'en foutent.
Je vais parler plus simplement pour que Daniel Morin puisse me comprendre. Elvira s'ennuie comme un crouton derrière une malle, à tel point que pour survivre, elle invente le colossal et dangereux mensonge d'une maladie grave. C'est pas bien, mais je la comprends. C'est plus sûr pour se faire aimer. J'ai été aussi ému par Patrick, ce salaud, ton personnage Mathieu, qui pour tromper l'amorosité de son quotidien de photographe raté, trompe Marina avec la pharmacienne. C'est pas bien, mais je le comprends, car une pharmacienne, c'est plus sûr pour pas choper les MST. Et puis, il y a ce... Et puis, il y a ce lotissement de banlieue, cette famille de bras cassés. Je pourrais continuer encore et encore, mais je suis trop chichement payé, alors j'arrête. Bonne émission.
Merci,
la bande originale, Nagui, sur France Inter.
Mytho, on parle aussi de cette bande originale.
Un mundo cruel me ha condenado.
Aznavour en italien.
Sin compasión me ha sentenciado.
Alors si je passe cet extrait en italien, c'est parce que votre papa, italien, qui fait des pizzas mais qui les crée,
non.
On ne décide pas de ce qu'il y a sur la pizza,
ouais,
c'est lui.
C'est une création.
J'adore le bonhomme.
Ouais, il est incroyable. Andrea Roncato, qui est un acteur très connu en Italie. Et qui parlait pas beaucoup français en fait. Et on a trouvé ce système de que lui me parlait. Moi j'ai ça avec mon père qui est anglais, qui me parle en anglais et je réponds en français depuis que je suis toute petite. Donc il parle en italien et elle répond en français et il est
comme
obsédé
arrive,
par ses pizzas.
Comme ça arrive dans beaucoup de familles. Ouais.
Et il lui dit qu'il l'aime.
Oui, oui, oui.
Ouais. C'est ça aussi.
Et il est, non, et qu'il a jamais levé la main sur elle, qu'il a jamais eu de crise d'autorité, qu'il l'a éduqué uniquement avec la parole. Non, mais c'est, il est.
Et qui est pas forcément clair sur tout, quoi. Je veux dire, qu'il y a un petit parallèle avec Patrick.
Mais qu'est-ce que c'est avec les mecs, toi?
Bah non, mais c'est vrai, non, mais là, j'aide Patrick. Là, j'aide Patrick.
Bien, papa.
Là, j'aide le personnage de Patrick. Il n'est pas complètement transparent. Non.
Mytho, c'est aussi s'inventer une vie. Parce que c'est ça, en fait. Le mensonge, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. Elle va s'inventer une vie.
Oui. C'est créer un événement aussi. Je crois que c'est un élan de vie, quand même, le mensonge, je trouve, moi. Après, ça dépend dans quel sens, mais c'est quand même.
Dire, Marina.
Non, réellement. C'est, ça crée un événement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, parce que c'est ce qui se passe dans la série, c'est tout d'un coup, la vie est bouleversée. La vie des gens est bouleversée. Et on part quand même le début de la série sur une espèce de, oui, ces banlieues pavillonnaires qui ronronnent comme ça. On sait pas très bien ce qui se passe, mais il y a quelque chose de très, bon, organisé, les gens avec les uns avec les autres. Et elle crée une électricité, en fait, dans l'air.
Ça donne du relief à la vie.
Et puis ça resserre. Et puis il y a un truc aussi, c'est que tous les liens se resserrent. Dès l'instant où ce mensonge arrive, dès l'instant où cette nouvelle vie, entre guillemets, est en train d'écrire, les liens se resserrent. C'est là où il y a la première espèce de chorégraphie playback sur Stand By Me. Je serai toujours à tes côtés. La bande originale, ça c'est la bande originale de Mytho, donc qui passe sur Arte, la bande originale des vies de Mathieu Demy et Marina Hand, ça sera dans quelques instants, mais d'abord voici Marina Rollman.
Bonjour les amis, hier je suis passée devant le truc le plus troublant de ma vie, et sachez à titre de contexte que je prends très régulièrement le TGV, dans les toilettes duquel le bouton pour tirer la chasse est quasiment introuvable, ce qui introduit un peu de piquant, de mystère dans une tâche dont parfois on se désintéresse à cause de son caractère routinier, mais qui crée une sorte d'escape room des excréments assez problématique, parce qu'en vrai le bouton est tellement bien caché que la plupart des gens abandonnent à mi-chemin, ce qui veut dire que dans ma jeune vie, je suis tombée sur mon lot de spectacles, au mieux ignobles, au pire inquiétants. Et pourtant, rien ne m'avait préparé au niveau d'absurdité d'une affiche que je découvrais comme ça sans prévenir.
Aux toilettes.
Et qui me laissait vraiment dans un état d'incompréhension absolue. Comme si un colis DHL arrivait chez toi à la date prévue.
Surprise !
Les colis, quel poème, attendre un paquet, ce moment merveilleux, ça fait 8 semaines que tu ne sors plus de chez toi. T'as raté ton propre mariage, t'oses pas cligner des yeux, tu t'es fait greffer ton téléphone pour être sûr de répondre quand ils arrivent. Et tu suis fébrilement sur le site internet le trajet du dit colis, qui généralement se déroule comme ceci. Colis réceptionné au centre de tri, non. Colis en route, colis en bas de chez vous. Et là, tu reçois ce message... Quel dommage, vous n'étiez pas là.
Tellement
vrai. Non, vous n'étiez pas là. Notre livreur a fait sonner un appôt à canard depuis le coffre de sa camionnette à 700 mètres de chez vous et vous n'avez pas répondu, vous n'étiez donc pas là. Bah oui, ça se tient. Mais n'ayez crainte, votre colis est désormais disponible au point relais le plus proche de chez vous, un cratère en Patagonie, accessible uniquement en parapente. Pour récupérer votre colis, veuillez vous présenter le 16e mardi du mois entre 3h07 et 4h08 du matin, heure à laquelle nos agents sont ravis de vous remettre votre colis contre un échantillon de moelle osseuse. Merci de votre confiance. Ah ben non, merci à vous, DHL.
Il faut se battre, oui.
Cette longue intro pour vous dire à la fois que j'aime faire des comparaisons, que j'aime les digressions, mais aussi que peut-être le sujet de ma chronique n'était pas assez touffu en lui-même pour survivre sans une interminable introduction. Sur quoi donc tombais-je qui me laissait ainsi pantoise? Quelle était donc cette affiche qui valait 1 minute 30 laborieuse de tournure en poulet et d'adjectifs redondants? Sur l'affiche de Siddhartha, l'opéra rock. What the flying fuckeroo? Siddhartha, l'opéra rock, c'est-à-dire la vie de Bouddha, mais, et c'est là que ça devient intéressant, en opéra rock. Y a-t-il eu déjà plus profonde incompatibilité dans les termes? Le déni du réel qu'il y a dans le concept d'opéra rock sur la vie de Bouddha. Je suis tombée sur cette affiche dans le métro, c'est vraiment une comédie musicale qui arrive, d'accord?
Qui existe, ah bon.
Mais oui. Alors, est-ce que vraiment les premiers trucs auxquels tu songes quand on te dit bouddhisme, c'est production qui coûte des centaines de milliers d'euros, marketing et promo pour écouler un max de tickets, des lumières, des bruits forts, tout ça pour célébrer Bouddha ? Fuck yeah, Bouddha !
Faites du bruit pour Bouddha !
Comment la personne à l'origine de cette œuvre a eu cette idée géniale ? Une conversation avec un pote, tu crois Bouddha il aurait voulu quoi ? Je sais pas, la paix dans le monde, la communication non violente, des cheveux, non. Moi, je pense qu'il aurait voulu... C'est un putain d'opéra rock. La question, c'est quel type de gens va être composé le public? Moi, je pense que c'est des gens que ça intéresse, mais c'est pas forcément des bouddhistes qui vont aller le voir. Cela dit, ce serait génial que le public soit composé uniquement de méditants hyper confirmés. Des gens qui pratiquent vraiment le bouddhisme, tu vois, la méditation limite des moines. Et les chanteurs, ils arrivent sur scène, ils sont là, est-ce que vous êtes chaud? Et le public, il serait là, on est vraiment ni chaud, ni froid. On est juste bien, on est heureux d'être là. Mais on pourrait aussi être ailleurs, car le soi est une illusion. J'ai pas entendu! Est-ce que vous êtes chaud? Si vous avez envie de le faire, on est prêt à recevoir votre spectacle avec amour. Mais cet amour, on vous le donnerait aussi même si vous ne faisiez pas de spectacle, parce que nous ne sommes qu'amour. Bon, alors on démarre maintenant! Le temps est infini car le présent est partout et seul l'ego s'élève en putain vocal! Peu importe, au final, je sais pas qui va aller le voir. Je leur souhaite beaucoup de succès à Siddhartha l'Opéra Rock. Et s'intéresser à la vie de Bouddha, ça peut nous permettre de mieux gérer la vie contemporaine et c'est déjà bien. Si les toilettes de TGV aux livraisons de colis se passent déjà mieux, ce sera déjà un gros gain. Bravo Siddhartha!
Merci, bravo Marie-Roland!
La bande originale. Marina qui est au Théâtre de l'Œuvre hein, en
oui,
ce moment.
Oui, il est mardi et mercredi voilà. À 21h. Merci, venez, c'est sympa.
Elle est bah,
oui. Ou alors allez voir Siddhartha.
La bande originale de Marina Hans et Mathieu Demy dans les années 70. Marina, vous écoutiez. Vous écoutez, évidemment, on entend Michael Jackson avec Diana Ross, on a envie de bouger.
Ça me fait plaisir d'entendre ça.
On a envie de danser.
Ah, Diana Ross, Michael Jackson, la version black du Magicien d'Oz, The Wiz, qui est un film génial. Et quand j'étais gamine, je voulais le monter en comédie musicale.
Le Magicien d'Oz
dans ma chambre.
Ouais.
Donc il y a quelques personnes qui sont venues dans l'encadrure de la porte pour me voir faire The Wiz avec une copine.
Parce que vous aimiez danser ou chanter? Le premier
surtout
truc.
Danser.
Surtout danser.
Ouais. Je faisais des petits spectacles de danse. Pour qui voulait.
Non, mais à la maison, c'est
un peu fait encore maintenant, maison, d'ailleurs. Ouais.
Oui, c'est vrai. Mais
À chaque déménagement. Tous les deux ans. Pour la crémaillère.
Oui, pour remercier les déménageurs qui en ont marre.
Ouais. Est-ce que vous êtes chauve?
Est-ce que vous êtes chauve?
Allez, parfaite. On a évoqué, Marina, votre enfance entre deux langues, entre deux cultures. Votre mère, Ludmila Mikael, actrice à la Comédie Française notamment. Votre père, metteur en scène, Terry Hans. Il y avait une place très importante dans votre enfance pour l'équitation.
Ouais.
On s'attendrait à ce que le théâtre emporte tout dans ces conditions, mais pas du tout.
Non, oui. Après, c'est venu quand même les chevaux, parce que moi, j'étais parisienne, enfin, citadine. C'est venu aussi du cirque, c'est venu de... J'adorais aller au cirque. Mmh. Et j'aimais voir des chevaux comme ça. Et les chevaux m'ont attirée d'abord par leur beauté, par le spectaculaire et tout. Et après, voilà, j'ai eu la passion de ça.
Au point de monter tous les jours,
ouais.
C'est pas juste deux fois par semaine comme ça.
Non, vraiment la passion des chevaux, quoi. Ouais. Des posters partout, tout ça, voilà.
Et d'intégrer l'équipe de France?
Ouais, junior, jeune cavalier, après.
Oui.
Mais c'était ce que je voulais faire dans la vie.
Vous l'avez toujours cette passion aujourd'hui?
Ouais.
Jean, vous avez un cheval à vous quelque
Oui,
part?
J'ai un cheval à moi. Non mais c'est vrai.
Il dort sous la table aussi.
Non, mais c'est doucement. De...
J'imagine que c'est du travail. Enfin, il faut le soigner, il faut le...
Oui, il est très très bien. Ouais. Il a une vie, je peux vous dire.
De patachon?
Oh là là.
Mais à quel moment vous avez fait de l'équitation plus pour le plaisir que pour justement une ambition professionnelle, un championnat ou...
En fait, moi j'ai échoué surtout parce que je voulais faire les Jeux Olympiques, donc et puis j'avais pas ce qu'il fallait pour ça. Donc j'ai arrêté, ça a été assez douloureux et tout, et donc j'ai plus du tout, voilà, pendant des années. Et puis un jour, je me suis dit, bon, maintenant je suis prête.
À remonter et être.
Ouais.
Mais vous n'avez pas commencé par des intentions moins élevées que les Jeux Olympiques? Commencer par régional,
c'est
quoi,
champion
de région.
Il n'y avait pas d'entre-deux, quoi, possible.
Un truc plus raisonnable.
Mais c'est affreux, on peut être que déçu tout le
temps.
Oui,
du poney.
Ouais.
C'est vachement bien les poneys.
Championnat de calèche.
C'est génial, c'est adorable.
Non, mais c'était, voilà.
Mathieu Demy, vous écoutez dans ces années 70. Ring My Bell. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson Ring My Bell?
C'est vraiment un souvenir d'enfance, en fait. C'était la fin des années 70, début des années 80. Et on habitait à Los Angeles. Et quand ma mère m'accompagnait au lycée français dans sa voiture qui faisait 12 mètres de long, il y avait tout le temps ça, avec la petite dame dans le même... il y avait tout le temps ça à la radio. Et effectivement, c'était l'époque aussi de la sortie, c'était Off the Wall de Jackson. Ça, c'est une époque musicalement merveilleuse.
Ring My Bell, parce qu'il y a aussi la connotation, vous parlez, vous êtes bilingue, donc vous comprenez les paroles de Ring My Bell.
C'est sonne ma cloche, je crois. Hein.
Il y a pas de traduction, vraiment.
Je me permets.
Il y a une carrière, il y a un truc qui s'ouvre.
Il y a un deuxième sens.
Oui, possiblement.
Il y a un deuxième sens, oui, qui est beaucoup, beaucoup plus sexuel.
D'accord. Oui.
Mais à l'époque, partout, j'étais enfant.
Oui.
J'étais enfant.
Oui. Et dans ces années-là, à Los Angeles, vos premiers souvenirs de cinéma, c'est quoi?
Les grosses productions américaines ou pas?
Alors, pas du tout. Ouais. C'était les mini-productions familiales avec ma mère. Et c'est l'année où elle a tourné un film qui s'appelait Documentaire, dans lequel je jouais un petit garçon assez proche de ma vie, contrairement à Patrick, qui
est
extrêmement éloigné. Et donc c'était plutôt des tout petits films vraiment faits avec de l'énergie et des meubles ramassés dans la rue et très peu de moyens. Donc assez loin d'Hollywood, ouais, c'était marrant comme contraste.
Je sais pas si vous avez vu le making of de Podane. Vous n'étiez pas né au moment du tournage de Podane. Est-ce que vous avez vu le making of de Podane?
J'en ai vu des bouts, ouais.
Où il y a une rencontre dingue
avec
Jim Morrison.
Ouais, absolument.
Des Doors qui vient sur le plateau taper la discute, quoi.
Bah oui, c'était rencontré. En fait, mes parents ont fait deux voyages à Los Angeles, un en 68 avec Rosalie, ma sœur, quand elle avait une dizaine d'années, et puis un début des années 80 avec moi. Voilà, elle a connu Morrison, et puis moi, je ramassais des meubles dans la rue en faisant des films fauchés, quoi. Voilà.
En 95, Marina, vous écoutiez. Tori Amos.
Oui, Tori Amos.
C'est pas la chanson la plus connue de Tori Amos.
Non, c'est vrai.
Qui est une dingue joueuse de piano et
passion,
avec une voix un peu à la Kate Bush et puis très sensuelle dans sa manière d'interpréter les
c'est
chansons.
Ça, et quand elle a commencé à venir jouer en France, moi en fait je l'ai vue en concert, c'est surtout à partir de là, elle était dérangeante, enfin il y a des gens disaient que elle était sur son, enfin qu'elle ressentait des choses avec son piano, enfin elle se mettait, elle avait les jambes écartées comme ça, elle avait son clavecin derrière et elle jouait et c'était... Moi, j'étais période de...
Non, mais Mathieu, ne faites pas le regard lubrique comme ça.
C'est pas lui, c'est Patrick. C'est une artiste. Marina, je suis intrigué.
Marina a raison, et je vais vous enlever cette épine du pied. Elle s'assoit sur le bord de son tabouret de piano, et en jouant, elle se déhanche sur le tabouret, et on ne peut pas ne pas penser qu'elle soit pas en train de se faire des caresses, quoi.
Mais elle a quelque chose de très physique.
Absolument, c'est dingue.
Vraiment, elle est animale, en fait.
Ouais.
Et à cette époque, je trouvais que les acteurs, on était un peu paresseux. Et mes inspirations, c'était les chanteurs et les chanteuses. Parce que je me disais, nous, alors là, on veut pas refaire la prise, on veut pas jouer trop longtemps parce que c'est trop long et tout. Et je me disais, mais eux, ils interprètent les mêmes titres pendant des années. Ils réinterprètent en permanence et tout. Et je m'inspirais beaucoup d'eux. Il y avait elle, en l'occurrence, quoi. Mais c'est vrai que son concert, c'était magique.
Et pour revenir dans les années 95, contre toute attente, vous choisissez la voie du théâtre. Contre toute attente, je dis ça parce que vos parents n'envisageaient même pas que ce soit une possibilité.
Non, non, ils m'ont pas trop cru, non. Mon père me parle plus depuis, mais... non, j'ai eu des parents...
C'est une blague.
Non, non, on se parle plus, non. Non et...
Mais pas parce que vous faites du théâtre.
Non, je pense pas. Mais ça n'a pas aidé. Après, quand on dit « Ah, c'est une histoire de famille, vous êtes une enfant de nana », il dit « Mais putain, bon, pardon, vous savez pas ce qui se passe dans les familles, les amis, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. » Et moi, en même temps, j'ai compris que voilà, c'était pas ce qu'ils espéraient pour moi, mais ça m'a fait travailler dur, donc c'était bien.
Ouais, mais c'est hyper dur en vrai.
Oui, mais la vie est dure.
Oui, c'est vrai.
La vie est dure pour tout le monde.
C'est bon, on dirait une chanson de Tori.
J'imagine qu'il y a des événements plus compliqués que d'autres à gérer, bien sûr. Mais surtout quand, systématiquement, on vous renvoie au fait d'être la fille de deux individus hyper connus dans le monde du théâtre et de l'art.
En tout cas, en France, on vous a plus parlé de Ludmila Mikhaël que de votre papa.
De votre père, oui.
Oui, ce qui est très bien parce qu'elle m'a soutenu et tout va bien.
C'est ça. C'est ce que je voulais dire. En 99, Mathieu Demi, vous écoutiez.
J'imagine la coupe de cheveux.
Même pas.
Moi, c'est le déhanchement que j'imagine. J'imagine le déhanchement.
J'étais chauve à l'époque, j'étais bouddhiste.
Alors, faut nous expliquer comment ce morceau arrive dans la bande originale de votre vie. Qu'est-ce qu'il évoque, ce morceau, pour vous? Quelle période?
Il évoque la pêche, le rock, l'énergie, l'envie de se battre, le côté tout à fait énergisant de la musique.
Ouais.
Le côté direct et énergisant du rock.
Vous jouez?
Non, je ne joue pas. Enfin, je joue, mais je maîtrise aucun instrument.
Mais vous êtes essayé à quoi? Alors, à la batterie, à la guitare?
Plutôt un peu la guitare, un peu le piano, mais je suis une brêle. Enfin, c'est pas ça, mais il faut faire tous les jours, quoi. C'est un instrument, faut le pratiquer, faut s'entraîner.
Ah bah oui, non, mais c'est voilà. On peut être doué, et ça n'empêche pas de travailler.
Ouais, donc je garde ça pour plus tard.
D'accord. je repasserai.
Ouais, c'est ça. En 99, Mathieu, vous fondez les Films de l'Autre, une structure de production, pas tout seul. Je crois que c'est avec Melville Poupeau.
Ouais.
Et l'idée, c'est de produire les Films de l'Autre.
Oui, bah voilà, on était copains, on s'était rencontrés sur un film. Moi, je voulais réaliser un court-métrage et j'avais créé cette boîte pour faire le court-métrage. Mm-hmm. Et très vite, Melville, qui avait fait ça en fait par amitié, m'a avoué qu'il en avait rien à foutre de la production. Donc, il est sorti des Films de l'Autre. J'ai pas rebaptisé les films tout seul parce que je trouvais que c'était un peu triste. Mais donc, en fait, l'autre, c'est moi et et ça a continué à être une boîte qui produit ou qui développe des choses un peu que je fais moi ou autour.
2006-2007, Marina Hans, vous écoutiez. Jeff Buckley.
Et dans ces années-là, Marina, vous intégrez, vous êtes pensionnaire à la Comédie Française.
Classe.
Et on vous retrouve aussi, j'ai envie de dire, surtout à l'écran dans un film merveilleux, c'est Lady Chatterley.
Ah, pas si merveilleux que ça, ça?
Non, si, je sais pas quoi répondre, c'est gentil, merci.
Ouais, non, mais c'est un film auquel je pense souvent.
Marina, vous êtes une sublime comédienne, vous le savez, vous jouez extrêmement bien. Vous êtes dans Mytho, les 5-6 premières minutes où on vous voit jouer, vous passez par tous vos états, on se dit waouh.
Merci, c'est la gorge qui se serre un peu.
Non, mais c'est sincère, je vous dis dans le blanc des yeux.
Oui, je vois.
C'est bluffant, c'est impressionnant. Donc, quand on vous fait le compliment,
on n'y croyait pas au départ. Hein. On n'y croyait pas une seconde.
Ouais, hein. Dit,
non, surtout Lady Chatterley, ça a été un film qui vous a fait connaître du grand public. Ça a été une sorte d'engouement fou, en fait. J'imagine qu'il y a eu une sorte de grande vague de déclarations d'amour à votre rencontre.
Oui.
Qui vous a valu aussi une récompense.
Oui.
Un César, quoi, tout simplement.
Mais j'aime tellement ce métier. Vous pouvez pas savoir, quoi. C'est jouer, voilà, bref. Et donc, je veux.
Cette reconnaissance, c'est-à-dire déjà la comédie française, les prix de vos pères dans ce métier-là, d'un coup, est-ce que ça vient penser quelques plaies en disant finalement ça valait la peine?
Mais en fait, j'ai besoin de ça. Mm. C'est comme, je sais pas, j'ai besoin de diplôme, j'ai besoin de prix, j'ai besoin de pouvoir dire, voilà, prendre des photos et les mettre sur une étagère. Mm. Comme j'ai fait je sais pas combien d'écoles d'art dramatique.
En ce moment, on offre des gourdes Radio France. Ça fait plaisir qu'on nous a donné.
Mais en plus, je suis une ancienne sportive, donc j'ai un rapport à ça. Ah bon, alors
la compétition, à gagner le truc, repartir avec le trophée.
C'est votre médaille d'or aux Jeux Olympiques.
D'avoir une légitimité, quoi. Voilà, c'est bête, mais ça marche.
Non, ça marche. En 2013, Mathieu Demi, vous écoutiez. Ah, on en parlait, Jim Morrison.
Et 2013, c'est votre premier long métrage, Mathieu, Americano. Vous l'écrivez, vous le réalisez, vous le produisez, vous interprétez le rôle principal. Vous faites une grimace, c'est à refaire, ça serait pas
non, et
tout
pourtant,
ça.
Et pourtant, il y a un sacré casting dans le film. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, c'est une grimace, j'en garde un souvenir extraordinaire, mais c'est vrai que c'était un gros morceau, quoi.
Oui, de tout gérer, tout ça, ouais. Tout seul pour la première fois.
Vous avez tout le casting en tête ? Parce que j'ai peur de dire des bêtises.
Il y a Salma Hayek dedans, de mémoire.
Géraldine Chaplin, ouais. Chiara Mastroianni et le regretté Jean-Pierre Mocky qui faisait mon père dans le film. Et non, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ce film parce que c'était très personnel et d'ailleurs extrapolé de Documentaire qui était le film dont on a évoqué tout à l'heure, tourné à Los Angeles.
C'était une façon de faire la suite, c'était de tirer un peu le fil ou de...
Ouais, c'est ça, c'était de tirer, de faire une espèce de suite fictionnelle d'un film qui est déjà, qui était un peu vrai-faux.
Ouais.
Non, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça et c'était une expérience même super comme acteur parce que ça permet de voir l'autre côté du miroir et de se rendre compte à quel point c'est complexe de fabriquer un film.
Vous jouez donc aux côtés de Marina Hans, Mathieu Demy dans Mytho, justement Mytho le mensonge. On vous a demandé, bonjour Hugues Delmas, de venir à ce micro. Vous co-signez avec Gladys Raffin, Benjamin Elissalde et Frédéric Thomas le mensonge chez Duno. Est-ce que la mythomanie, le mensonge, c'est la même chose ?
Alors d'abord, la mythomanie, c'est la tendance compulsive finalement à mentir. Et nous, dans le cadre de notre ouvrage, effectivement, on s'intéresse davantage au mensonge en tant que tel, c'est-à-dire celui qui est produit par nous au quotidien, le mensonge un peu plus social.
Le petit mensonge ? Il y a différentes tailles de mensonges ou pas ?
On va dire qu'au quotidien, on ment une à deux fois par jour. C'est des études qui montrent ça.
Sauf Nagui. Mais je déteste
donc,
ça.
Mais en réalité, c'est des petits arrangements avec la réalité. Il n'y a pas beaucoup de grandes conséquences.
On va dire la vérité. C'est pas ça.
C'est quoi l'exemple ?
Il y a différents mensonges. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, quand quelqu'un, quand vous n'êtes pas en forme et quelqu'un vous dit bonjour, ça va, et vous dites ça va, pour pas discuter, vous appelez ça un mensonge ou vous appelez ça de la diplomatie, de la politesse, juste social ?
C'est un petit mensonge.
C'est juste
ça va être l'intention délibérée de tromper autrui.
Mais non,
c'est la définition.
Le mec, il est pas petit dans un couloir, salut, ça va.
On peut mentir pour plusieurs raisons, effectivement par politesse, on peut mentir comme dans la série.
Alors pourquoi ment-on ? Est-ce qu'on ment pour se raconter une vie plus belle ou est-ce qu'on ment pour faire l'intéressant auprès des autres ?
On peut mentir finalement pour des raisons ce qu'on appelle égoïstes, ça veut dire acquérir des bénéfices, éviter une punition ou attirer l'attention sur soi. C'est notamment le mensonge de Evira dans la série, au final. On peut aussi mentir pour des raisons altruistes, dans le sens là où le mensonge va bénéficier à autrui. C'est protéger quelqu'un, par exemple, lui éviter une punition ou tout simplement aussi le valoriser. Donc le mensonge a une fonction fondamentalement sociale.
Est-ce qu'il a du bon ?
Alors, il y a Mathieu qui vient de faire un truc terrible. Genre, je tends la main vers notre spécialiste. Genre, finalement, si je mens à ma femme, c'est pour lui éviter de la peine. Je lui dis pas que je la trompe parce que je sens le raisonnement, mais complètement foireux.
Le mensonge pour faire du bien à autrui, je suis tout à fait.
Mais ça lui fait pas de bien.
Hugues, est-ce que le mensonge fait du bien ?
Tout n'est pas justifiable quand même.
C'est une cabale. Est-ce qu'il est inévitable ?
Il est inévitable, il fait partie des relations sociales, donc du coup, il permet de les fluidifier, de les pacifier. Donc du coup, dans la société, on est obligé, entre guillemets, de mentir, de faire des petits mensonges. Justement.
Est-ce que, comme le personnage de Marina Hans dans Mytho, on peut se retrouver prisonnière ou prisonnier de son mensonge ?
Le mensonge peut souvent en entraîner un autre. Après, la problématique là-dedans, c'est que à force de répéter le même mensonge, on va s'habituer à celui-ci. Et du coup, finalement, la frontière entre le mensonge et nos souvenirs, c'est-à-dire il va s'intégrer, peut devenir floue au bout d'un moment. Et plus on va répéter un mensonge également, plus on va moins avoir d'efforts à le produire, on va avoir moins d'émotions qui vont qui vont arriver. Et du coup, au fur et à mesure, on s'habitue et on arrive davantage à le faire passer, à le répéter, etc.
Mais le mytho, en fait, c'est celui qui croit en son mensonge ?
Le problème, c'est le risque. Au bout d'un moment, c'est à force de mentir, c'est de croire à son mensonge. Après, forcément, il y a toujours des faits qui peuvent contredire finalement la réalité.
Parce que pour le menteur, le menteur, lui, il ment pas. Il raconte sa vérité.
C'est là où, en tout cas, dans le cadre de notre ouvrage, Le mensonge aux éditions Duno, on s'est
bien mal passé. Hein. Ouais, discret,
on l'a pas vu venir.
Donc du coup, la définition, c'est
c'est
l'intention délibérée. Et il faut avoir conscience de son mensonge. Et donc du coup, si on n'a plus conscience de son mensonge, ça ne devient plus un mensonge, mais ça fait partie de notre réalité.
Est-ce que le mensonge vis-à-vis des parents qui mentent aux enfants ? C'est des mensonges entre adultes, on va dire, bon, allez, ils sont grands, ils sont adultes, ils maîtrisent ça. Mais vis-à-vis des enfants, est-ce que ça, il faut absolument l'éviter ou au contraire?
Non, pas forcément. Après,
genre le Père Noël, quoi.
Genre, on commence.
Par exemple, le Père Noël, effectivement.
La petite souris.
Alors, le Père Noël, info, intox. Il y a des news là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'on me ment depuis un moment, moi. Répondez-moi.
Est-ce que ça peut se détecter? Le mensonge.
Alors la problématique, c'est que c'est difficile à détecter.
Parce que c'est ce que vous avez essayé de trouver dans votre ouvrage chez Duno édition.
On parle de ça, effectivement. On parle de ça, on parle des idées reçues, donc on a de nombreux stéréotypes qui entravent cette détection. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun indicateur qui permet de détecter le mensonge à tous les coups, à coup sûr.
Il n'y a aucune machine.
Ni avec une machine. Aujourd'hui, les machines, elles font autour de 70% de réussite. Donc, il y a toujours une grosse marge d'erreur. Et ça reste quelque chose qui reste très complexe.
Est-ce que c'est le ciment de la société, le mensonge, finalement? Tout tient parce que, voilà, tout le monde joue un tout petit peu à...
Effectivement, ça nous permet de nous intégrer dans la société de manière, voilà, de fluidifier les relations sociales. Après, on peut, même si on peut pas forcément le détecter, on peut quand même, en tout cas, s'améliorer à la détection du mensonge, et notamment en se centrant sur des méthodes de questionnement et plus en cherchant à repérer des indicateurs dans le comportement autrui qui soient aussi bien non-verbal que linguistique.
Hugues Delmas, je ne sais pas si vous avez détecté quoi que ce soit, mais j'étais ravi de vous accueillir. Le mensonge, c'est chez Duno édition.
C'est quelle édition?
Duno. Tanguy Pasturo, ça rime. Vous allez nous parler de l'usine Lubrizol, malheureusement.
Je pense aux Rouennais qui nous écoutent et qui flippent, hein, parce que depuis 7 jours, on a d'un côté des politiques qui disent que tout va bien, Rouen va gagner le concours des villes fleuries, des biches se battent dans le centre-ville tellement c'est propre. Et de l'autre, des experts qui disent qu'au vu des trucs qui ont brûlé, c'est grave, hein, on n'est pas sur un feu de camp avec trois mecs à la gratte. Donc on ne sait pas qui croire.
On en parle après les infos de midi. Avec Léna Gadeau-Boudadi, Marina Rollman.
Bonjour.
Jamais eu autant de Marina autour de cette table. Daniel Morin, Marina Gadeau, Tony Bastureau, et nos invités, Marina Hans et Mathieu Bibi. Ah. Avec, oui. Ouais, t'as senti aussi. Ouais. Il vient au bout du rouleau. Bout du rouleau, mais je le dis encore demain. Nous parlons de cette série qui s'appelle Mytho, qui est réalisée par Fabrice Gobert. Quel genre de réalisateur est-il? Parce que sur Les Revenants, déjà, on avait été bluffé par sa manière de travailler. Comme on est dans un univers qui est... déjà, on n'a pas le sentiment d'être dans une fiction. Les premières images, je me suis dit, je suis au cinéma.
On connaît ce lotissement.
Tellement le grain. Non, puis il y a puis, le grain, la lumière, le...
Ah, oh, il y a un grain, ouais.
Bah ouais.
Il y a un grain.
T'appelles ça comment, toi, quand sur la.
Mais moi, j'ai vu le truc, je vais pas chercher le grain.
Il y a une vraie création aussi.
Il y a quand même des fictions, tu vois, tu dis, ça a été tourné avec le caméscope de ton grand-père, quoi. Tellement les couleurs sont moches. Et là, on est dans la vraie vie. Vous n'êtes pas, j'ai dit brillante comédienne et tout le monde le sait, extrêmement belle. Vous n'êtes pas non plus bien servie par le maquillage parce que vous êtes femme de vie quotidienne. C'est ça.
Et la coiffure va changer.
Tu balances, tu divulgages tout. Toi.
Non. En même temps, c'est pas la fin
mais
du truc.
Mais c'est vrai qu'il y a dans la série, il y a plein de plans qui sont hyper esthétiques. Il y a plein d'idées, il y a plein d'inventions, notamment un plan où on vous suit en marchant et tout le reste du lotissement est dans l'autre sens. Ça a même une esthétique un peu de clip, hyper chic,
exact,
en fait. Justement, et on parlait de la bande son tout à l'heure, il y a aussi toute une jeune scène française dans l'esthétique. Junior. Il y a Junior, il y a Pion, il y a Palatine, il y a plein de groupes français que je trouve hyper pointus.
Palatine.
Ah, j'adore Palatine, ils sont dingues. Ce groupe est dingue, hein, franchement.
Bah, ils sont pas toujours bons. Hein.
Mais si. Sur la terre. Si, Palatine.
Et puis... Ah, c'est bien. Et puis, alors, on n'a pas assez cité, les autres comédiennes et comédiens
les
qui
enfants,
sont avec vous.
Les enfants.
Marie Drion, Jérémy Gillet, Zélie Zikan, Lindan Pham, Yves Jacques, Jean-Charles Cliché, Fadili Camara, Marceau Ebersolt, Julia Faure, Loubna Abidar, Maude Wheeler, entre autres. Tout ce beau monde joue extrêmement bien, donc je me dis que ça doit être bien dirigé. Le réalisateur doit y être pour quelque chose, quand même, quand tout est autant en phase.
Mais ce qui est, moi, je suis fan de Fabrice, j'ai jamais rencontré un réalisateur comme ça. En fait, on ne sait pas comment il travaille. C'est pas quelqu'un qui parle de ce qu'il fait, de comment il le fait, et qui justifie tout par les mots. Et donc, il est plutôt assez silencieux, très aimant, et voilà. Et ça avance comme ça. Et après, on découvre que, en regardant ou en parlant comme ça avec des gens qu'il a vraiment, voilà, il sait très bien ce qu'il veut, mais c'est pas du tout quelqu'un qui va se mettre en avant en fait sur un plateau. C'est il met les gens ensemble, quoi. C'est, il est très fort.
Quel est votre regard, vous, Mathieu Demy, réalisateur, producteur aussi?
Plein d'admiration. Je ne suis qu'admiration pour Fabrice, pour sa bienveillance. Et effectivement, il est très discret, mais en fait, il sait exactement où ça va.
Et comment il dirige? Est-ce que
alors, en musique.
Fois.
Ah, ouais, il est très musical. Souvent, il nous mettait avant la scène.
Il plonge le plateau dans une
ambiance.
Il balance comme ça.
Pour tout le monde, les techniciens, enfin toute la.
Et c'est pas forcément la musique qui sera dans la scène. C'est plutôt une musique de mood et d'ambiance, quoi.
Et on répète avec.
Et on répète avec. Et non, c'est
fort.
Ouais, il est très très fort.
C'est réussi. En tout cas, ça passera deux soirs. 10 et 17 octobre, trois épisodes chaque soir. Et ce sont des 52 minutes. Voilà ce que je voulais dire. Voici Tanguy Passion. Tanguy, vous connaissez bien, paraît-il, la ville de Rouen.
Oui, parce que j'ai vécu 8 ans, de 96 à 2004. Et là, Tanguy, vous vous dites, je m'en fous. Mais l'auditeur de France Inter n'est pas comme vous, il m'aime. Parce qu'il n'a pas votre vie sociale, non, il moisit chez lui. Telle une vieille crêpe lancée il y a 20 piges par une bigoudaine fébrile et qui serait venue se fourrer derrière la gazinière. Il se raccroche donc à nous autres stars de la radio. Et quand on lui donne un élément autobiographique, c'est comme un cadeau. La fois où j'ai dit à l'antenne que j'avais fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 27 ans, j'ai reçu une trentaine de pots de confiture. Plus une invitation à la soirée Golden Shower organisée par ce petit club de Pigalle en présence de Gérard Depardieu qui est parvenu à uriner jusqu'à 7 mètres de haut. Bref, j'ai vécu à Rouen, ville au sang clocher selon Victor Hugo, ce Jean Foutre surcoté qui au lieu de pondre un 14e tome des Misérables a passé sa life à compter les cloches. Il a eu la même vie pourrie que le lapin de Pâques. Et quand je sortais de Rouen pour gagner Paris par la 13, accélérant ostensiblement à l'approche de Mantes-la-Jolie où il y a des cités, je passais devant les usines classées CVS. Céveso signifie que l'usine manipule des produits dangereux, hein, comme l'album de Phil Winter sorti en 96, ou le cerveau de Mundir l'aventurier, qui lui aussi peut péter à tout moment si on lui présente un bouquin de la rentrée littéraire. Donc là, on imagine que le truc est bien géré, un site Céveso en ville, on se dit même si un intérimaire a des flatulences, la sirène retentit, on évacue Rouen. Sauf qu'il y a une semaine, il y a eu comme un testicule dans la soupe, voire les deux, voire trois testicules pour ceux qui vivent près d'une usine Céveso et qui chaque jour respirent l'air environnant. Pas d'évacuation, pas de distribution de masques, les seuls à en avoir c'était les policiers et gendarmes dans les rues. C'est un poil angoissant. Moi, si je vous voyais tous ici équipés de combinaisons blanches intégrales et que j'étais en t-shirt Snoopy, vous auriez beau m'expliquer que c'est pour vous isoler de Daniel Morin qui sait pas laver les dents, je flipperais non seulement ma mère mais aussi mon frère et son chat. Hier, je lisais l'édito d'Yves Tréhard dans le Figaro, ce qui à France Inter est puni de 14 coups de martinet dont les franges ont été réalisées avec des poils de Benoît Hamon. Eh bien, Monsieur Tréhard parlait de l'ère du soupçon, du fait que les Rouennais, ces idiots, refusaient de croire la version gouvernementale. Mais il faut les comprendre. Il leur est tombé dessus de la suie, il y a eu une odeur atroce, à faire passer celle d'un sandwich au Munster pour un petit sapin à la con que t'accroches dans ta 306. Et avant-hier, la préfecture disait que 5253 tonnes de produits chimiques avaient brûlé. Moi, quand un mec fait tourner son scooter à l'arrêt et que j'expire le gaz, j'ai l'impression que je vais crever. Là, on parle de 5000 tonnes de saloperies, dont d'après le CNRS, des cancérigènes avérés et des substances toxiques pour la reproduction. Hein, ce processus qui consiste 5 ans après l'acte à devoir vous taper l'intégrale des chansons d'Henri Dess dans la voiture. Mais il y a de quoi s'inquiéter quand même. Joey Starr, présent à Rouen, s'est filmé sur Instagram avec un masque en expliquant qu'il avait des nausées. Joey Starr, le type qui peut s'enfiler 17 litres de rhum sans gerber. Jack Sparrow à côté, c'est un buveur de candiap et malade. Si ça, c'est pas effrayant, je ne sais pas ce qu'il est. À part un nude de Jean-Yves Le Drian, peut-être.
Donc pour vous, ce n'est pas de la paranoïa.
Non, et je vois même de la condescendance dans la manière dont l'affaire est gérée. Ces ministres qui passent un quart d'heure à Rouen et qui disent tout est ok, l'air, quelle pureté, on se croirait dans les Alpes. Et ce noir partout, mais dans 30 jours, c'est Halloween, on est raccord. Mais installez-vous à Rouen, messieurs, dames, on vit dans la fumée. En 1431, Jeanne d'Arc a brûlé. Maintenant, c'est Lubrizol, le chef indien qui a inventé les signaux de fumée que de castor, l'a fait après avoir visité Rouen, hein, on le sait peu. D'autant que personne ne donne la même version. Hier sur France Info, un expert en chimie, Frédéric Poitou, a consulté la liste des produits qui ont cramé. Il déclare que ce serait très étonnant qu'il n'y ait pas de toxicité. Il y a quand même de l'amiante qui a brûlé brûler de l'amiante. Quand vous en avez un mètre carré dans votre plafond, Valérie Damidou arrive pour démonter la baraque. Là, ça brûle, tout va bien. Quatre heures plus tard, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, déclare qu'il n'y a aucun souci. L'air, nickel. L'eau, nickel. J'ai failli prendre un Airbnb pour aller passer deux jours sur place. Parce que c'est l'Éden. Plus 120% de petites fleurs à Rouen. On a vu des lapins jouer de la flûte. Des sources jaillir. Seulement, pardon pour la porte-parole, mais en cas de crise, si je dois suivre un expert ou une politique qui connaît que dalle, je prends l'expert. Hein, pour discuter sexualité, vous irez plus vers Clara Morgan que vers le pape François. Hier, je lisais Libération, ce qui à France Inter est récompensé d'un carnet de 100 euros de bons cadeaux. Il disait qu'un pompier présent sur le site pendant l'incendie a fait analyser son sang. On refuse de lui remettre le résultat qui doit rester confidentiel. Donc moi, je veux bien qu'on dise que Facebook rend la population parano, mais le truc est aussi peu transparent que David Douillet. Quand on visite au Louvre, il se fout devant la Joconde, alors que des touristes nippons d'1m50 essayent de la photographier. Édouard Philippe lui-même, il y a 4 jours, disait « Tout va bien, pas ni problème, yes papa !» Hier à l'Assemblée, il a dit « Nous ne savons pas tout !» Il fait du moonwalk avec ses déclarations, c'est le Michael Jackson de la glotte. Résultat, on entend 10 versions différentes. Donc moi, je suis pas un spécialiste en chimie. Hein. En sciences physiques, en 3e, j'avais 2. Hein. Donc je sais pas qui croire, mais je suis à 120 bornes. Alors j'imagine que le doute m'habiterait. C'est moins drôle au conditionnel, en fait, cette vanne. Hein. Si j'avais vécu il y a 7 jours à Rouen avec ma famille. Bref, j'ai jamais eu autant envie de croire Sibeth Ndiaye et j'espère de tout cœur que les experts sont nuls.
Merci, Tanguy Marceau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et on retrouve Tanguy près de Rouen.
Oui.
À Marôme, le 12 septembre.
12 sur décembre.
Décembre, sur scène. Ouais.
Tu n'annules pas, tu y vas.
Bah, le 12 décembre, ça devrait aller mieux quand même, j'espère.
Ah, donc ça aurait été plus proche, tu aurais annulé, salaud.
Non.
Question concernant la culture en général. Marina, Hans, Mathieu, Demi, si vous voulez répondre, ne vous gênez pas. Qu'est-ce qui fait 12 mètres de haut, 8 mètres de large, 10 mètres de profondeur?
J'ai une réponse, mais elle n'est pas de soirée. Mais je...
Qu'est-ce qui fait.
On l'avait tous, les gars. Moi, je suis avec toi.
Qu'est-ce qui fait 12 mètres de haut, 8 mètres de large, 10 mètres de profondeur, et des tonnes de polémiques en ce moment.
La Tour Eiffel?
Non.
Une sculpture.
12 mètres de haut.
Bah, je sais pas, attends, 12 mètres de haut.
Une sculpture, oui.
Ouais.
Ah, bah, c'est le bouquet de fleurs de
Jeff Koons.
Koons, ouais.
Le bouquet de tulipes.
Exactement. Ah. Le bouquet de tulipes offert par Jeff Koons qui va être inauguré ce vendredi dans les jardins du Petit Palais à Paris. L'art contemporain, vous faites la grimace, Mathieu Demi?
Non, pas vraiment. C'est
votre visage.
Mon visage.
Votre visage. Non, c'est ça.
Vous avez soulevé le mou. Vous avez fait une petite moue quand même.
C'est pas ce que je préfère, Jeff Koons, mais c'est intéressant.
Et vous, Marina? L'art moderne, contemporain.
Je connais pas très bien.
Ça vous touche pas?
Si, mais je connais pas très bien. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de codes, en fait, connaître les codes. En art contemporain.
Ouais, faut simplement se laisser porter. De... Ou on a une émotion, ou on l'a pas, quelle que soit la période à laquelle une œuvre a été créée, non?
Ouais, je sais pas.
C'est comme c'est un peu plus conceptuel, parfois ça demande une porte d'entrée différente, mais les œuvres. Ouais.
Après, toutes les œuvres, mais en général, c'est un peu alambiqué pour moi, pour mon petit cerveau.
Qu'est-ce que cette musique vous dit?
Frozen.
Ah, c'est la nouvelle chanson de la Reine des Neiges, là, le truc qui va nous. Ça va être l'enfer, ça.
Mais oui,
ça va être l'enfer.
Ah, les deux, Marina Hans, comme Mathieu Deneuve. Oh là là, non. Ouais.
Non, mais ça va être l'enfer, mais par rapport à la précédente, ça va être rien du tout, parce que la précédente, on se l'est tapé pendant 2 ans et demi.
Mais si ça se trouve, ça a marché aussi bien.
Bah oui. Peut-être.
Ouais.
Et en français, ça donnera ça.
Chaque jour, un nouveau défi.
Ok, donc c'est l'enfer.
Mélange de moi et une partie de moi s'en va sans le vouloir. Dans un autre monde.
C'est moins catchy. Ouais, c'est moins catchy que libérer bien. Truc dans un autre monde. C'est un peu.
En tout cas, c'est toujours aussi insupportable.
Alors, il faut savoir qu'en Corée du Nord, le film n'est pas diffusé, donc on peut toujours partir et y vivre.
Mattel vient de lancer une nouvelle poupée. Quelle est sa particularité?
Elle est noire, elle a des seins, elle est ronde.
Elle est fluide genre.
C'est juste.
Exactement, d'éléments. Ouais. Non genré.
C'est pas fluide. Mais... Non, gender fluide, c'est pas ça.
Alors, c'est quoi non genré?
Non. Gender fluid, sexuellement, c'est quand tu que ce soit un homme ou une femme, tu peux y aller.
C'est ce qu'elle dit, la poupée. Elle y va. Hein.
Non, elle est androgyne. Elle est quoi?
Elle est non-binaire. Elle fait ce qu'elle veut. Laissez-la.
Elle a des couleurs de peau variées. Okay. Ouais. Déjà, toutes les couleurs de peau. Dans une série intitulée Creator World.
Est-ce qu'on essaye vraiment?
Ouais, comment ça, plusieurs couleurs de peau? Elle est un caméléon?
Elle peut correspondre aussi bien aux filles qu'aux garçons.
Ok.
Voilà. Mais et quoi d'autre
Comme cet acteur dans la série qui est absolument génial. C'est, c'est la deuxième fois que je le vois dans une série. Qui
Elles sont personnalisables.
Un cadet, qui est super.
Moi, je t'écoute, Nagui, hein, si ça me pose la question.
Jérémy Gilet. Ah ouais.
Oui, oui, c'est ça. Oui, qui est toujours, pardon, dans le même rôle. Ça, ça serait souhaitable aussi qu'on lui propose un autre rôle que celui de l'ambiguïté de savoir si c'est un garçon ou une fille. Mais c'est vrai que les deux fois où j'ai vu, c'était dans ce rôle. Mais ça n'empêche qu'il joue extrêmement
François
bien.
Bayron se demande aussi. Hein.
Moi, j'ai des indices.
Vous êtes vraiment des enflures. Mais vous êtes vraiment des chiens. Où ça a été tourné, d'ailleurs, ce mytho, puisqu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Est-ce que ça a été tourné en France ou pas?
Oui, 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 en Ile-de-France, ouais. Dans l'Oise et l'Essonne. Ouais, et beaucoup en studio. Tout le décor a été construit en studio. En fait, la directrice artistique de la série, c'est la collaboratrice de Xavier Dolan.
D'accord.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a un soin particulier à l'esthétique, à beaucoup de choses.
Xavier Dolan, que nous recevrons d'ailleurs pour...
Dans 15 jours.
Dans 15 jours, très bien. Malheureusement, il est là tous les jours. C'est Daniel Morin.
Ça fait plaisir. Le monde de la musique classique va mal. Jesse Norman nous a quittés il y a quelques jours à Cincinnati en pleine représentation. Une violoniste s'est arrêtée de jouer à cause d'une spectatrice qui filmait avec son smartphone. Hier, le ténor Placido Domingo, inquiété pour harcèlement sexuel, démissionne de la présidence de l'Opéra de Los Angeles. Ça va plus que mal, hein. Heureusement qu'il y a de belles histoires, de très belles histoires pour redorer le blason du bel canto.
Le blason.
Du bel canto. Yafol. Et parmi ces histoires, il y en a une que je vais vous raconter. Oui, je vais vous raconter une histoire au lieu de vous offrir ma chronique. Chronique que certains appellent à juste titre, d'ailleurs, l'humour à l'état pur. Alors, je sais, le pays est furieux. Comment ? Daniel Morin ne fait pas sa chronique. Ça fait plus d'une heure que je me tape les interminables interventions de Nagui en attendant ce moment de grâce. Il va pas faire sa chronique. Ah, le salaud, le fumier, le collabo, le douanier. Ah, le sale petit fils de pute. Je sais, c'est dur. C'est dur, mais aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé avant-hier, ici, à Radio France. Mardi soir, c'était le lancement de la saison baroque à l'auditorium de la Maison Ronde, pour marquer le début de la saison au programme Le Messie de Heindel. Pièce majeure du répertoire, c'est idéal pour lancer une saison. Ça vaut pas Christophe Maé, mais bon, ok, ça tient la route. Tout le monde est très excité et nerveux pour cette première. Le contre-ténor choisi pour l'occasion est Alex Potter. Tout s'annonce très bien. Mais en pleine répétition, les emmerdes commencent. Le contre-ténor Alex ne se sent pas hyper bien. Puis à l'occasion de répétition, on passe de pas super bien à carrément mal. Puis de carrément mal à je peux pas chanter. Putain la tuile ! Que faire ? Bon, on appelle un remplaçant. Le remplaçant, c'est David Lee, un confrère de confiance qui fera parfaitement l'affaire. Il fera l'affaire, mais faut faire vite. Les répétitions ont commencé, ça urge. Du coup, David Lee se dépêche. Il prend l'avion de New York. Dans 8 heures, il est à Paris, ça va le faire. Le voyage se passe bien, mais dans l'avion... Il y a comme un courant d'air. Oh non, se dit David qui commence à avoir la gorge qui gratte. La gorge qui gratte, mauvais signe pour un chanteur. Il arrive à Paris et là, catastrophe ! Il a attrapé une bronchite. Putain de clim de merde ! Il répète dans la douleur et à force de volonté de sirop pour la toux, il arrive sur scène avant-hier. Le premier acte se passe bien, mais en vrai, David Lee est en souffrance. C'est l'entracte et dans les coulisses, David craque. Il en peut plus. Il jette l'éponge. Il peut plus assurer la suite. Pierre Charvet, le compositeur, une voix de Radio France, où il présenta plusieurs émissions sur France Musique et dans les coulisses. Dans la salle, confortablement installée, la fille de Pierre Charvet, Adèle Charvet, qui est mezzo-soprano, est venue assister à la représentation. Représentation qui ne reprend pas. Que faire ? Annuler ? Pas question. Et là, Pierre Charvet a une idée de génie. Il demande qu'on aille chercher sa fille, Adèle, dans la salle. Elle arrive, il la regarde droit dans les yeux et lui dit... Tu vas remplacer le ténor.
Moi, remplacer le ténor? Mais t'es taré, papa. Primo, c'est un rôle de bonhomme, je suis une meuf. Deuxième mot, c'est un air que j'ai jamais chanté. Et puis laisse tomber, sur scène, tout le monde est en smoking. Moi, je suis en jean, basket, t-shirt. J'ai pas fait de shampoing, on dirait Zaz. C'est hors de question. No way, daddy.
Adèle finit par accepter. Elle répète en coulisses et dans l'urgence. Et puis bon, il y a un moment où...
Faut y aller, quoi.
Ouais. Et là... Oh, Adèle Charvet, habillée en gauchiste, accompagnée par l'orchestre de Radio France, face au public de Radio France pour l'ouverture de la saison baroque, malgré une pression folle, quasiment sans échauffement, dans une œuvre qu'elle n'a jamais chantée, ni même travaillée, Adèle assure. Elle envoie comme une Maria Carré sous acide. Fin de la représentation, le public est maboule de bonheur, standing ovation, full en délire, triomphe. Ça s'est passé avant-hier à l'auditorium de Radio France.
Et tout est vrai.
Ça va rester gravé à jamais dans la mémoire de la maison. Ouais. Tout est vrai. Ouais. Et ça, dans un scénario, personne n'y croirait. On dirait, ah, vas-y, c'est trop gros. Adèle Charvet, en plus d'être une formidable chanteuse, vous êtes une super héroïne. À noter que le concert héroïque sera retransmis après-demain sur France Musique. Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien au royaume feutré de l'art lyrique? À demain.
Merci. France Inter, la bande originale avec Nagui. Mytho, j'ai oublié de préciser Mytho, mais tu vas le faire pour moi.
Ouais, le prix que vous avez été récompensé à Cérimania, que vous avez reçu le prix du public et le prix Marina d'interprétation aussi, ouais. Aussi pour vous, Marina Hans.
Et cette série donc
une
démarre
médaille.
Le 10 de plus sur le.
Faut
rajouter des murs, hein, y a trop de trophées à afficher. Le 10 octobre prochain et donc la semaine prochaine et le 17 octobre, deux semaines avec trois épisodes chaque fois et le tout vous pouvez voir ces six épisodes de 52 minutes sur Arte ou avoir le DVD. En un mot, qu'est-ce qu'il faut retenir de Mytho ou de notre rencontre aujourd'hui? Tu veux commencer là,
ouais,
tu veux pas commencer
sûr,
allez, Marina, ouais. Allez Marina, vas-y.
Ça me fait revoir un peu ma vision du mensonge. Je commence à me dire que peut-être il y a des côtés positifs.
Tanguy Passureau.
Ben moi j'ai appris qu'on mentait au minimum deux fois par jour, hein, donc ça n'a aucun lien, mais j'en profite pour dire que je suis très bien dans cette émission.
Albert Agou.
Il y a un comédien, Yves Jacques, dont on parlait tout à l'heure, ouais. Qui joue le patron de l'agence d'assurance, qui est formidable dans l'ambiguïté, formidable comédien.
Daniel Morin.
Une scène de confrontation entre Marina et toute sa famille que j'ai trouvé bouleversante, que j'ai trouvé hyper belle et qui m'a fait croire à nouveau en la femme.
Wow. Ben que, c'est quand même, enfin, c'est une super belle fiction, en fait, que j'invite tout le monde à la voir.
Ouais, ouais. C'est une réussite. Ouais. Vous, merci. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise, Marina, après avoir vu Mytho?
C'est quand la suite?
Mathieu Denis?
Oui, c'est une très bonne réponse. Je crois que la série, c'est un peu la forme idéale pour raconter une famille. Et voilà, c'est quand la suite, ça me paraît parfait.
Parce qu'il y a une suite.
Ouais. On commence le tournage de la saison 2, là, en janvier.
Donc on va pas spoiler, mais en tout cas, si vous pensez avoir tout compris en ayant vu les deux, trois premiers épisodes, pas du tout.
C'est vrai que ça évolue beaucoup.
Ça s'appelle Mytho et c'est signé Fabrice Gobert pour la réalisation. Je vous rappelle, Marina Hans, Mathieu Demy, merci mille fois d'être venu à
merci
ce micro.
Vous.
En tout cas, des
merci
excuses à présenter, Daniel.
Oh, bien sûr. Déjà, désolé pour nos auditeurs qui aiment, comme Nagui, que nos invités cloisonnent entre la vraie vie et leur rôle et qui ont regretté.
Parce que Mathieu prenait tout pour lui.
Ils ont regretté que Marina Hans et Mathieu Demy ne décloisonnent pas assez. Eh bien, c'est faux, on s'est renseigné. Mathieu Demy est bien plus salaud que son personnage. Désolé pour le responsable de l'interro de début d'émission qui ce matin a perdu son travail. Alors je rappelle, c'est Marina Foïs qui déménage tous les deux ans et c'est Mathieu Chédid qui est né dans une piscine de jus d'orange. Sûrement avec un peu de vodka à l'intérieur, mais c'est Mathieu Chédid. Hein. Et désolé pour l'enfant qui sommeille en Mathieu Demy et qui a découvert ce matin que Ring My Bell ne voulait pas dire que sonne ma cloche. Selon Nagui, ça veut dire aussi éclate-moi le bouton. Nagui, vous salissez tout, même l'enfance de nos invités.
Est-ce que, juste une simple question rapide, Marina, on vous verra rapidement au théâtre, au cinéma, quelles sont
pour 2020. Là, j'ai tourné un Capitaine Marlowe qui va sortir le 22 octobre avec Joe Star et Corinne Mazière.
D'accord. Ouais. Et vous, Mathieu, Demy?
Moi, j'attends Mytho 2 et je produis un film en ce moment, je produis un long métrage.
Il y a Ils étaient 10 aussi.
Il y a Ils étaient 10 aussi, exactement, qui va être diffusé sur M6, mais je ne connais pas la date, alors je peux pas trop m'avancer.
Alors on n'en parle pas. Très bien, je me tais. Demain, nous recevons donc Sylvie Testu pour parler de Marivaux et de sa pièce au théâtre Édouard VII. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne. Bonne journée. Merci Marina.
Merci
Mathieu Denis. Carnets de campagne.
Merci les amis. Merci. À demain.